Merci, mes chers collègues, messieurs, mesdames, messieurs. Évidemment, je vais jouer mon rôle de directeur, mais il va de soi que je n'ai nullement dirigé les travaux de Bernard Stiegler. Je les ai lus depuis des années, en particulier grâce à un certain nombre de ses admirateurs qui ont été aussi mes élèves et qui ont eu bon goût de m'inciter à les lire à mesure qu'ils paraissaient. Cela dit, je le fais vraiment bien volontiers. L'œuvre et la carrière de Bernard Stiegler présentent quelques caractéristiques singulières qui font de cette soutenance un moment exceptionnel. L'œuvre, d'abord, est imposante. Elle fait apparaître plus de 15 forts volumes rédigés comme des livres en nom propre, et même avec une présence de l'auteur qui ne laisse aucun doute sur ce qui de lui-même passe dans ses textes. Ça doit être salué en un temps où l'on pratique souvent la publication d'articles parus dans des revues et pour finir rassemblés en livres plus ou moins homogènes. Cela mérite d'être salué véritablement. Bernard Stiegler ne pratique pas le mimétisme scientiste si répandu aujourd'hui dans notre université. Il assume son ambition de philosophe et il pense visiblement qu'on peut donner toutes les garanties de sérieux sur ce terrain en écrivant d'épais ouvrages qui ne se contentent pas de décrire un secteur de l'expérience et en prenant le risque d'analyser et de juger, disons, le monde tel qu'il va. Deuxième caractéristique, ces ouvrages présentent entre eux une très remarquable cohérence qui fait qu'on peut véritablement parler d'une œuvre. Ce sont des livres, mais c'est une œuvre. Cette cohérence repose sur un socle. La thèse soutenue en 1992 à l'EHESS, sous la direction de notre ami Jacques Derrida, qui constitue la substance des trois volumes de l'ouvrage intitulé « La technique et le temps ». Mais, chose rare, cette thèse, l'auteur n'a pas cessé de la reprendre, du moins de la prolonger. Et nous savons maintenant, quand nous avons lu son mémoire de soutenance, que eh bien, dans les années à venir, au moins deux autres volumes de La technique et le temps vont paraître, dont l'un sera consacré à un examen de la question de l'éducation qu'il vient d'évoquer à l'instant, à partir de la théorie platonicienne de l'anamnèse et de ses difficultés. Et le cinquième à une discussion de la pensée freudienne, en tant qu'elle a, si je comprends bien, manqué la politique, parce qu'elle a manqué la technique ou la dimension technique d'elle-même. Troisième caractéristique, cet édifice donne lieu latéralement à des écrits qui apparaissent en quelque sorte comme des scolies, amenant l'auteur à prendre position dans les débats actuels dont il repense les termes dans les termes de sa propre pensée. Ainsi en est-il, par exemple, de Mécréance et discrédit, dont le tome 3 est consacré à ce qu'il appelle l'esprit perdu du capitalisme, et dont ce qu'il vient de nous dire nous donne la clé d'une partie du sens. C'est paru en 2006. Et c'est un ouvrage qui s'ouvre sur une discussion très serrée, quelquefois même un peu brutale, avec les thèses de Luc Boltanski et de F. Chiapello sur mai 68 dans Le nouvel esprit du capitalisme. Me semble relever du même statut les deux volumes parus sous le titre de La misère symbolique en 2004 et 2005. Quatrième caractéristique, au-delà de ces vastes et puissantes colis, un ensemble d'ouvrages manifeste ce qu'on peut appeler l'engagement philosophique de Bernard Stiegler. C'est le cas des deux volumes parus en 2005 sous le titre « Constituer l'Europe », puis en 2006 « La télécratie contre la démocratie », ainsi qu'en 2007 « De la démocratie participative ». Les titres et les dates parlent d'eux-mêmes. Ces ouvrages tirent les leçons, parfois polémiques, des études patiemment menées depuis 15 ans pour éclairer, dans tous les sens du terme, certains des débats politiques actuels les plus chauds. De la carrière de Bernard Stiegler, il faut dire aussi qu'elle présente quelques traits peu courants dans notre corporation, si je peux employer ce mot. Enseignant, passionné par l'enseignement et par les questions d'éducation, nous y revenons une nouvelle fois, et je pense que la suite de la carrière, je parie, de Bernard Stiegler mettra cette question pratiquement au centre de ses préoccupations. Il a enseigné avec succès à l'Université technologique de Compiègne. Il a accepté ce que nous appelons dans nos dossiers des responsabilités collectives comme animateur d'équipe de recherche très active au sigle magique, Fiseco, puis COSTEC, philosophie technique et cognition, et connaissances, organisation et systèmes techniques, consacré au développement de ce qu'il appelle les technologies cognitives, se démarquant de l'appellation sciences cognitives, et contribuant notamment à créer à Compiègne, si je ne m'abuse, un DEA de sciences humaines et technologies. Mais il ne s'est pas contenté de ses activités. Il est allé sur le terrain, ou si on peut dire sur son terrain, et qui se trouve être aussi le nôtre à tous, ce qui tombe bien. Et il y a assumé des responsabilités importantes à la tête, notamment de l'Institut national de l'audiovisuel, à celle de l'IRCAM, ou encore aujourd'hui, comme directeur du département de développement culturel du Centre Pompidou. Et on notera que partout où il passe, il crée des institutions de recherche à visée prospective. Et ça n'est pas si courant. Comment ne pas saluer ce rare équilibre entre recherche collective et méditation personnelle, entre enseignement et recherche, entre recherche et écriture, entre pensée et administration, entre administration et participation au débat public. Habilité à diriger les recherches, Bernard Stiegler s'est autorisé de lui-même pour l'être, et depuis longtemps au plus haut niveau. Il nous reste à apporter le salut de l'institution universitaire, et je suis très heureux que ce salut ait lieu ici, dans notre université Paris Diderot, devant un tel jury, que je remercie. Sur le fond, maintenant, puisqu'il faut aller vite, il y aurait tant de questions passionnantes à discuter que je me suis demandé vraiment par où commencer. Un exercice qui d'ailleurs pourrait se révéler, et se révélera certainement, interminable, c'est-à-dire fructueux. Je me suis décidé à commencer par la fin, ou plutôt par ce qui apparaît aujourd'hui comme la fin qui est forcément provisoire, pour remonter vers la thèse qui commande tout. Et en me faisant une idée de ce que mes collègues à cette table poseront comme question et que je ne voulais pas redoubler par avance. Soit donc le texte de Mécréance et discrédit, tome 3. La thèse essentielle est exprimée d'entrée de jeu. Page 11. Je cite. Le capitalisme a perdu l'esprit. La misère spirituelle y règne. Les sociétés de contrôle sont devenues incontournables, profondément irrationnelles, sans raison, sans motif d'espérer. Ceux qui peuvent ne plus rien avoir à attendre du développement du capitalisme hyper-industriel y sont de plus en plus nombreux. Fin de citation. Comme vous voyez, c'est un diagnostic plutôt sombre. On viendrait. Quoique, dans un texte, l'auteur s'en défend. plus sombre en tout cas que ne l'est le document de soutenance, qui laisse énigmatiquement place à l'espoir d'autre chose que cette misère. Mais certainement, cette autre chose va revenir dans nos discussions. Hyper-industriel, le capitalisme, selon Bernard Stiegler, a étendu son emprise à l'esprit, au sens, dit-il, de Valéry et de Max Weber. Je demanderais bien, texte à l'appui, si le sens de Valéry coïncide bien avec celui de Max Weber et par quelle magie ils se retrouvent invoqués ensemble. Mais enfin, au sens de Valéry et de Max Weber, par des industries de programme, que vous appelez joliment des industries du rêve, qui ont fait perdre jusqu'à la notion même d'esprit. Ce qui est quand même fort. Page 21. De là, la misère, dite spirituelle ou symbolique, spirituelle parce que symbolique, qui nous affecte de notre incapacité à nous penser comme nous, c'est-à-dire à accéder chacun pour soi à la dimension du jeu, puisque le jeu, J-E-U, du jeu, ne se fait qu'entre nous. Cette misère se constaterait à ce que Bernard Stiegler appelle la disparition du surmoi. Mais, au passage encore, je me demanderais ce que l'idée de disparition du surmoi peut avoir de sens en termes freudiens. Mais probablement qu'il prend, comme d'habitude, ses distances avec le vocabulaire qu'il utilise à sa façon, dans son langage. Mais en tout cas, c'est du moins cette thèse-là qu'il discute de Marcuse, dont il affirme qu'elles ont inspiré, qu'il a inspiré l'essentiel de mai 68. Ça, je l'ai dit. Mais cette disparition rendrait incontrôlables les sociétés de contrôle, réputées depuis Deleuze avoir succédé aux sociétés disciplinaires, pour l'essentiel, dont Michel Foucault avait esquissé l'analyse en se focalisant trop pour finir sur le biopouvoir, alors que se répandait ce que vous nous rappelez avoir appelé un psychopouvoir ou un no-pouvoir autrement redoutable, puisque fonctionnant à l'addiction. Puisque nous sommes tous des addicted, et apparemment de plus en plus jeunes, c'est-à-dire de plus en plus accrochés. À la misère spirituelle vient s'ajouter ainsi la misère politique, qui se constate à une désaffection, qui est aussi une désaffectation. On trouve ça dans Misère, mécréance et discrédit au tome 2. D'où l'état que vous dites lamentable du monde politique aujourd'hui. Avec la désaffectation, c'est la question de la place et du rôle qui est posée, et donc, concept clé de Bernard Stiegler, de l'individuation, dont il emprunte le concept pour mieux le tordre à Simon. Dans son stade hyper, qui s'attaque à la consommation, le capitalisme devient un opérateur de désindividuation. Ça, c'est à la page 45 de Mécréance et discrédit, tome 3. La référence au Simondon de l'individuation psychique et collective est insistante et presque rituelle dans l'ensemble de l'œuvre de Bernard. Il est question d'une désindividualisation généralisée, c'est-à-dire qui affecte tous les systèmes sociaux, comme la famille, l'État, la biosphère, et surtout, on vient d'y revenir, le système psychique lui-même, où elle se manifeste par ce qu'il appelle une désublimation, je pense que le mot est marcusien, pas freudien, marcusien, engendrant un déchaînement par déliaison des énergies pulsionnelles. Mais, alors, j'ose à peine dire en dernière instance, ce mouvement négatif vertigineux de mécréance, de discrédit, de démotivation, de désindividuation, de désubjectivation par désublimation, à quoi, à qui l'imputer? À la technique. Je pose la question. Est-ce que on peut considérant la technique comme un fait, mais un fait de mémoire, comme vous l'écrivez à plusieurs reprises, en vous adossant à la fois à Simondon, à la notion de système technique de Bertrand Gilles et à celle de milieu technique de Leroy Gourhan, est-ce que les conditions de ce désastre, de tout cette enfilade des dés, seraient à chercher dans l'existence, l'expansion de technologies dites hypomnésiques, référence faite donc à l'interprétation que donne Derrida du fait par rapport, par opposition, à l'amnésique qui joue le rôle de pharmacon, détruisant la mémoire au moment où elle se présente comme son support supplémentaire, son amplification, et sont réputées être grosses d'une société du savoir ou de la connaissance, expression bénie de tous les technocrates actuels, alors même qu'elles répandent l'ignorance, comme vous le montrez dans « Mécréance et discrédit 3 ». Ceci nous renvoie au socle même de la pensée de Bernard Stiegler, telle qu'établie dans la thèse, et à la question majeure que j'aimerais poser. Est-ce que la technique semble jouer, dans les derniers textes, un rôle transcendantal? Peut-être par la mémoire, dont elle est un fait. Je sais que les premiers écrits ne me paraissaient pas admettre. Qu'en est-il? Deuxième question. D'ailleurs, est-ce que vous êtes un philosophe transcendantal? Pourtant, vous dites qu'il vous faut une logique transcendantale. Et entre nous, vous m'intéressez parce que vous ne l'êtes pas. Mais je m'inquiète quand je vois que vous le seriez peut-être. Deuxième question. Le tableau de la perte d'esprit du capitalisme que je viens de présenter, de rappeler, et présenter, c'est le titre, comme sociopathologie de 68. Cette expression renvoie à une tradition de pensée qui manie l'analogie entre organisme et société, entre régulation biologique et régulation sociale, à laquelle Georges Canguilhem, auquel vous avez fait référence, mais peu dans vos textes. C'est beaucoup intéressant. Comme ce dernier le fait remarquer, une telle analyse fait toujours en fin de compte appel à la figure d'un médecin, ou suggère l'idée d'une médication sociale. Ce qui revient à nier l'allure propre des sociétés pour lesquelles la norme, c'est la crise. Alors, doit-on de ce qu'il est annoncé un volume final sur Freud, dans les conditions que je viens de rappeler, comprendre que la santé de la société sera rétablie. Un nouveau capitalisme sera inventé, une autre allure de vie sociale amorcée par un traitement de type analytique dont le philosophe prendrait la charge. Vous avez côtoyé ces questions dans votre discours inaugural. Ces questions, je me les posais en vous lisant. Autre façon peut-être de poser toujours la même question, mais pour ma propre gouverne, parce que c'est quand même l'occasion d'avoir une discussion intéressante. Dans le mémoire de soutenance, vous donnez plusieurs définitions de la philosophie. Je vais en énumérer trois. Et vous demandez de nous faire apparaître les relations qui les relie dans votre pensée. La première se donne dès la première ligne, comme celle que vous avez adoptée dans la technique et le temps. Je cite, la philosophie est constituée par un refoulement de la question de la technique et par une dénégation de sa constitutivité, et ce, dès Platon, comme vous l'avez rappelé à l'instant. Bon, je laisse à d'autres le soin de vous interroger sur le rôle que vous attribuez à Platon, et donc aussi celui que vous accordez au pré-socratique, mais j'aimerais que vous reveniez sur ce refoulement et cette dénégation qui suppose non pas une question, mais un désir. Bon, mais quel désir? Et la technique, peut-elle jouer un rôle transcendantal si c'est un désir qui l'apporte? Vous écrivez plus loin que la question de la philosophie doit être conçue comme la question de la trans-individuation. La page 33. Qu'entendez-vous par la question de la philosophie? C'est une expression qui revient très spontanément, très régulièrement sous votre plume. La question de la philosophie. Est-ce la question unique, centrale que se pose la philosophie? Ou est-ce autre chose? Est-ce que c'est la philosophie comme question? Vous dites d'ailleurs plus, disons plus modestement, que ce sont les questions philosophiques qui sont toutes des questions de trans-individuation. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ou est-ce que ça voulait dire la même chose? Plus loin, vous écrivez que la philosophie se constitue comme affirmation de l'anamnésis en tant que réaction contre la pratique de cette hypomnésis qu'est l'écriture, définie comme technicisation de la mémoire linguistique. Bon, très bien. Mais réaction contre, est-ce la même chose que refoulement de? Puis, vous êtes saisi de classicisme et vous écrivez que la question de la philosophie, page 40, est la question de l'amour du savoir. On respire. Mais amour, vous dites joliment, il se constitue dans l'épreuve du savoir perdu. Ça, c'est magnifique. Je vois bien le lien, mais de rechef, pourquoi cette insistance à dire qu'il y a quelque chose comme la question de la philosophie? Voilà. Leonard Stigler se pose, nous pose, nous oblige à lui poser de redoutables questions. Il y en aurait évidemment beaucoup d'autres sur le maniement et l'interprétation des auteurs, sur Platon, sur Kant, sur Marx, sur Derrida, sur Simondon, sur Foucault, sur Marcus, sur Wolsonski, sur Valéry, sur Joseph Beuys, que visiblement vous accordez une grande importance. Mais je m'en tiens à ce qui est le plus radical, à mes yeux, en soulignant une nouvelle fois que nous trouvons devant une œuvre ample, audacieuse, inventive, courageuse, qui marque depuis longtemps et qui marquera encore longtemps, j'en suis sûr, le débat intellectuel bien au-delà de nos frontières.
Merci beaucoup, monsieur Lecourt. Juste sur Valéry et Weber, il y a quelque chose de commun pour moi entre Valéry et Weber, qui est de lier la question de l'esprit à la question de l'économie politique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une économie politique aux antiques? Je parle du regard de Marcel Gauget chez Weber, ça c'est une discussion ouverte. Mais en tout état de cause, moi j'interprète le travail de Weber d'un point de vue de l'économie politique. Et chez Valéry, il y a véritablement un formidable texte sur l'économie de l'esprit, dont je pense qu'il y a quelque chose à faire. Faire converger, et c'est ce que j'essaie de faire entre Valéry et Weber. Mais bien entendu, ça appellerait.
Je vais apporter mes textes de Valéry. J'ai du mal.
Oui, ça appellerait un argumentaire plus long, ça j'en conviens avec vous, mais ça m'intéresserait. J'essaierai de vous apporter des réponses plus satisfaisantes en dehors de cette séance. À quoi imputer ce mouvement de désubulation, désannulation, etc. Bref, à ce. Disons le désenchantement accompli. Je suppose que c'est un processus, et là, je reprends un terme qui vient de Bertrand Gilles, de désajustement pharmacologique. Pour moi, et je crois d'ailleurs là être assez proche de Campbell, précisément, le processus que je n'ai pas appelé humain, parce que non pas du tout que je sois contre, mais l'humanisme n'est pas la manière dont j'interroge, je préfère dire le non-inhumain. Ce processus auquel en tout cas nous appartenons, nous croyons appartenir, est un processus métastable et négantropique. Mais qui n'est négantropique que dans la mesure où il est un terrain de lutte entre une tendance anthropique et négantropique. Et que sans cesse nous avons à, en quelque sorte, en anglais on dirait, dealer avec ces tendances. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à agencer ces tendances. Nous n'arrivons pas à faire qu'une tendance se nourrisse de l'autre. Il y a un phénomène que j'ai appelé aussi de décomposition des tendances. Dans le premier temps. Et ce processus de décomposition, que Freud a précisément analysé au plan psychique, d'ailleurs, dans Malaise dans la civilisation et dans toutes sortes de cultures et en toutes sortes de contextes, est aujourd'hui devenu un énorme processus social. Dans un langage plutôt de l'ordre courant, je dirais, c'est un processus d'extériorisation sans réintériorisation. Et c'est là que Platon est très très important, évidemment. C'est qu'il a posé ça d'emblée. Et il a posé ça un peu comme Marx le dit à propos de la machine. C'est-à-dire que j'ai osé faire une conférence il y a quelque temps qui s'appelait Platon penseur du prolétariat, ce qui est un petit peu évidemment tiré par les cheveux. Mais c'est une vertu décapante. Alors sur le transcendantal, non, j'espère ne pas être un philosophe transcendantal. Véritablement, j'ai parfois un peu ferraillé avec notre ami Jacques Derrida parce qu'il utilisait le concept de quasi-transcendantal, ce qui m'énervait au plus haut point. En revanche, vous allez me dire que je refais la même chose que lui, finalement, peut-être, pas moins bien. Je parle parfois, même si j'en ai pas encore beaucoup parlé, véritablement, mais c'est par ça dans une note de bas de page, de philosophie à transcendantal.
Oui, vous l'avez dit, c'est cet alpha privatif, voilà. Me laisse supposer que vous ressentez comme une privation.
C'est-à-dire que je pense. Mais oui, c'est un âge philosophique qui est magnifique.
C'est un âge,
oui. Magnifique, c'est la jeunesse de la philosophie. Nous, les tard venus, nous ne sommes plus dans cette affaire-là. Nous savons que c'était la jeunesse qui s'illusionnait. Mais c'est une belle illusion. Si vous voulez, mon problème ici est de dire. C'est un petit peu, évidemment, un dialogue que j'ai toujours essayé de soutenir avec les philosophes qu'on dit analytique, empiriste, etc., que je combats, mais respectueusement. Mais oui, il faut évidemment sortir de l'époque transcendantale de la philosophie, mais en sortir, on ne le peut qu'à condition d'y passer. Et donc, il faut passer par les questions transcendantales pour pouvoir poser la question. D'une philosophie qui ne soit plus transcendantale, mais autrement dit, je pense qu'une philosophie passe nécessairement par un moment transcendantal dans une revendication de type phénoménologie de l'esprit hegelienne qui me paraît irréductible. Et je pense qu'il est très dangereux pour la pensée de chercher à oublier ce moment du transcendantal. En revanche, il y a un danger en voulant ne pas l'oublier, de ne pas pouvoir en sortir. Ça, c'est évident. Par rapport à ça, quel est le rôle de la technique ? Je ne dirais donc pas que c'est une structure transcendantale, sans sujet, comme disait l'autre. Enfin, l'autre, moi, je ne l'ai jamais connu, mais Jean-Hippolyte, que je crois que vous avez connu. Mais je dirais, en revanche, que, en effet, il y a une structure atranscendantale, qui est en fait une structure pharmacologique, et que, de fait, c'est une situation de technicité irréductible, savoir. Alors, par rapport à la santé de la société, il s'agit-il d'élaborer une nouvelle santé ? Ma réponse sera à la fois non, de manière radicalement non, et oui, et dans la mesure où, là, je me revendique de Nietzsche, c'est-à-dire que j'ai un discours de la maladie comme santé, c'est-à-dire d'une façon d'être dans sa maladie. Une maladie, pour s'entendre ici, dans un sens élargi, de la médecine, évidemment, comme une autre façon d'être malade. Une autre façon d'être malade qui serait capable de produire à nouveau, si je puis dire, un bonheur de cette, comment dire, de cet inachèvement, puisque cette maladie dont parle Nietzsche, je pense qu'elle correspond en fin de compte, parce que Simondon décrit comme un inachèvement radical. Il est douloureux d'être inachevé, mais il n'y a que dans l'inachèvement que le bonheur d'exister est peut-être retrouvé à mon point de vue. Et nous avons en ce moment la difficulté d'une exploitation, si je puis dire, industrielle de l'inachèvement, qui conduit à une espèce de tentative industrielle de combler cet achèvement. Si je puis dire, en jouant un peu sur les mots, je dirais qu'on est dans le comble de l'inachèvement. Mais un comble de l'inachèvement qui ne fonctionne plus, qui ne produit plus de dynamique, c'est-à-dire de ce qu'on appelle de l'individuation. Et ça, évidemment, ça renvoie à la question du thérapeutique. J'ai essayé, en disant dans mon introduction, de dire qu'il n'y a pas de thérapeutique générale. Ça, c'est le danger absolu. C'est là, et ça, c'est la philosophie transcendantale qui peut réintroduire la thérapeutique générale. En aucun cas, il ne peut y avoir de thérapeutique générale. On est technicien, c'est-à-dire qu'on est toujours carentiel dans un domaine technique. Il y a, dans un langage économique, on dirait qu'il y a une division du travail dans tous les cas qui s'opèrent. Par conséquent, on ne peut pas être à la fois maçon, cordonnier, philosophe, musicien, etc. Quant à la philosophie, énorme question bien entendu, et à mesure que je ne m'étais pas perçu de. Parce que les questions m'avaient posé, je me suis dit, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. La philosophie, question de son désir, si j'avais le temps. Mais là, je ne veux pas le prendre parce que ce serait enfin, ne pas permettre que la discussion de la suite se passe dans de bonnes conditions. J'aurais parlé de la question de la volonté de puissance et de la technique comme condition de la volonté de puissance et du fait que la philosophie a affaire avec cette volonté de puissance qui est d'essence technique, qu'elle veut soigner à proprement parler, dont elle veut prendre soin à proprement parler. Mais dont elle veut prendre soin d'abord dans une crise, qui est une crise de la police, face à un événement qui a été très bien décrit, en particulier par Jean-Pierre Vernant, par beaucoup d'autres, mais surtout par Vernant, qui est une crise d'abord économique, économique au sens crise monétaire, crise. Enfin bon, tout ça, on a eu tendance à l'effacer, mais Vernant l'a rappelé, et qui se traduit par l'apparition des autistes. Et c'est une crise qui ressemble beaucoup à la nôtre aujourd'hui, même si elle se produit dans un espace beaucoup plus limité, avec des forces beaucoup moins importantes et sur un temps beaucoup plus long, incomparablement long. Mais je crois que la question que la philosophie affronte, qui est en grande partie par un refoulement en effet, c'est le rapport entre le désir et la technique. Quant à ce que c'est que la question de la philosophie, vous m'avez posé très clairement cette question, quelle est la question de la philosophie? Pour moi, la réponse est net dans mon esprit, en tout cas, c'est l'un, la question de l'un.
Bon, ma question, c'était plus exactement, est-ce qu'il y a la question de la philosophie?
Oui, je crois qu'il y a, la question.
Alors, il y en a une, et c'est la question de l'un.
C'est pas la seule, mais je pense qu'il y a une archi-question de la philosophie.
Une archi, voilà.
Il y a une archi-question de la
philosophie. Vous ne faites pas rire.
Pas forcément.
Vous êtes pas forcément. Toujours dans le... la proximité répulsive avec le transcendantal.
Je ne suis pas sûr que l'archi soit nécessairement transcendantal. Voilà, là où il y a la question. Mais, je m'arrête là-dessus, juste pour bien préciser mon point de vue. D'ailleurs, j'espère ouvrir une discussion avec Frédéric Nera. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais il a écrit un petit texte sur cette question de l'un et de l'individuation au même peuple, la politique. Je pense que la question de la philosophie est une question de l'unité du processus d'individuation. Après, cette question est devenue immédiatement des questions. La question devient tout de suite, toujours déjà, des questions.
Merci.
Merci à vous.
Merci. Je vais donner la parole à vous. Cher monsieur, il y a quelque chose de très étrange à se trouver là. À devoir formuler, enfin pour moi, devoir formuler ou simuler une évaluation, quelque chose comme une évaluation, une sorte d'évaluation, non pas d'un travail, d'un texte, discussion avec un texte, même si il y a le texte de votre synthèse, mais de l'ensemble de votre réflexion, ce qui est, à ma connaissance, la règle de notre jeu. Et cette cette nécessité d'évaluation, même si nous allons tous, je pense, soigneusement la dénier, elle est inscrite dans notre salle, dans notre convocation, dans notre dispositif, si ce n'est dans notre scénographie, et elle produit un effet étrange. Enfin, pour moi, elle produit un effet étrange parce que je n'ai pas lu tous vos livres. J'en ai lu quelques-uns, très attentivement. Et donc, il est possible, parfois peut-être même probable, que les questions que je pourrais poser trouvent les réponses ailleurs, dans les pages où je les ai vues se lever. Et aussi parce que c'est très étrange à mes yeux à cause de l'ampleur et de la force de la pensée devant laquelle nous nous trouvons. Seulement parce que cela se présente dans la taille d'une œuvre considérable, cela pour l'ampleur, et aussi, à mes yeux, je le dis avec précision, avec la dimension d'une grande philosophie, cela pour la force. Donc il y a quelque chose d'un peu ridicule, à mes yeux, à proposer, enfin pour moi, à proposer une sorte d'évaluation de ce travail. Et pourtant, j'accorde du crédit, de la valeur à la circonstance qui nous réunit, à la qualification de habilité qui en fait l'objet, et au désir que vous avez pu avoir de la provoquer et de la traverser. Donc je me prête au jeu, avec un peu de gêne, par quelques observations et questions. Je dirais d'abord très peu de choses, mais que je crois qu'il faut dire ou redire, déjà, sur les traits visibles et évidents de votre œuvre. D'abord sur son étendue, qui est considérable, sur les responsabilités de premier plan que vous avez occupées dans des institutions publiques, sur, on peut ajouter aussi les programmes de recherche et de création technique et industrielle dont vous avez pris le risque et que vous avez déclenché ou que vous poursuivez. Il m'a été donné d'en observer au moins un, je veux dire en détail, plusieurs dans le cadre de l'Institut de Recherche et d'Innovation que vous avez créé et que vous dirigez au Centre Pompidou, par la diversité de ces domaines d'application, métaphysique, technologique, psychologique, ce qui est probablement, ça m'apparaissait déjà avant de vous entendre aujourd'hui, et peut-être encore plus, à certains égards, le centre de votre affaire, esthétique, éthique, politique, par la singularité et l'audace de vos propositions, qu'on mesure dans l'écart que vous marquez, écart de fidélité à l'égard de ceux qui, à qui vous devez beaucoup, à partir de Derrida, lorsque vous poursuivez et réorganisez la logique du supplément, de la prothèse, à partir de Simondon, autour de l'individuation, à partir de Le Bras Courant. Donc voilà, donc il y a là quelque chose d'extrêmement massif, considérable, dans lequel on a plutôt envie d'entrer, de séjourner, de voyager. Alors, s'il faut formuler à cet égard, dans l'extériorité de ceci, de cette première approche tout à fait de surface, s'il faut formuler une question, je m'y risque, après avoir beaucoup hésité, hein, mais je le fais tout de même. Permettez-moi de questionner, c'est-à-dire de reprocher, mais oui, d'interroger une certaine ivresse terminologique. C'est-à-dire les propositions incessantes que vous faites de néologisme, en fait c'est assez rare, plutôt de reprises néologisées de termes anciens, avec des acceptions transformées nouvelles. Ou des esprits malveillants, et ils s'en trouvent dans ce monde, pourraient croire trouver une affaîtrise stylistique, voire un vertige, une fuite en avant permanente de la théorisation. Là où on voudrait, par solidarité, parfois vous voir revenir sur des concepts déjà proposés, les creuser, en nourrir l'élaboration. Il m'est arrivé, je l'avoue, ponctuellement, peut-être avant de vous connaître un peu mieux, il m'est arrivé de me poser cette question, alors que j'abordais votre travail avec un énorme intérêt, et je le dis en toute sincérité, là encore je parle avec une certaine précision, ayant pris en chaque circonstance le temps de lire avec attention vos analyses, de remonter les fils que vous suggérez, d'aller y voir, et de retrouver les hypothèses, en particulier dans les domaines les plus proches de mon travail, j'ai cru pouvoir toujours y trouver une profondeur conceptuelle, une proposition réglée et construite, et une rigueur déductive. Alors, direz-vous, où est la question ? Sinon l'objection. La question est dans ceci. Il me semble que dans le jeu des renvois à vos propres écrits, vous ignorez parfois que le lecteur d'un écrit donné n'a pas lu et ne lira pas, dans l'immédiat, l'écrit auquel vous renvoyez. Par exemple, dans « Télécratie contre démocratie », vous savez que je vous l'ai dit, que je pense que c'est un excellent livre, important à certains égards, on trouve un fourmillement d'autoréférences qui peuvent troubler le lecteur, en particulier le lecteur auquel vous vous adressez, ou être mal interprété, comme une sorte de complaisance. Et qu'il est donc nécessaire de prendre la peine de la réexposition, non pas pour se répéter de façon stérile et complaisante, mais au contraire pour soumettre la thèse antérieure au risque et à la nécessité de la reformulation. Vous le faites souvent. Et chaque fois que vous le faites, je trouve qu'on y gagne, tous. Par exemple, dans la technique et le temps 3, la reprise des analyses de la technique du la technique et le temps 2, complétée, redite autrement, pensée, vous le faites souvent, mais peut-être pas assez, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si mon objection a la moindre portée, je ne sais pas, vous le faites peut-être pas à mes yeux, peut-être pas assez, compte tenu de la densité du réseau notionnel que vous mobilisez, et qui parfois fait un peu écran devant ceux de vos lecteurs qui ne sont pas les lecteurs les plus fidèles, les plus quotidiens. Et c'est cela à qui vous vous adressez si souvent. De sorte que parfois on ignore la construction qui se trouve derrière telle proposition terminologique qui peut apparaître comme un jeu de mots. L'otium du peuple, le défaut qu'il faut, la débandade, enfin il y en a mille, qui peuvent apparaître comme des jeux de mots. Enfin, avec la gratuité du jeu. Évidemment, votre construction est très complexe, elle est ramifiée, elle est sans cesse développée de livre en livre, elle est particulièrement riche et proliférante, il n'y a pas beaucoup d'exemples de cette sorte. Alors je pensais, en réfléchissant à cette question que je vous adresse, je pensais à l'exemple de Freud, qui a une pensée aussi riche, aussi complexe et aussi proliférante terminologiquement. Et je me demandais pourquoi, en lisant Freud, on n'avait pas cette impression, si ce n'est peut-être que parce que parfois, peut-être toujours, il repart au début. Je ne sais pas. Enfin, souvent. Pas toujours, mais souvent. Début qui n'est pas un début, hein. C'est un milieu, on le sait tous. Donc, pour les autres questions que je vous adresse, vous comprendrez que je prenne le parti d'une certaine simplicité. Un peu excessive, parfois. Alors, sur les propositions théoriques multiples, j'ai déjà dit, je ne peux ni prétendre les évaluer, ni même les discuter dans leur ensemble. Je dessine quelques points d'interrogation, et parfois de façon extrêmement abrupte. D'abord sur votre politique. Nous pouvons, c'est bien évident, en parler très longuement. Nous en parlerons. Mais je vous adresse cette question brutale. Il m'est arrivé de m'interroger sur votre position devant votre position politique devant ce que les marxistes classiques appelaient la question nationale, la délicieuse formule. Vos analyses économiques sont, ou de société, sont très vastes. Elles sont historiales. Elles sont très souvent mondiales. Et lorsque vous parlez politique, brusquement, il me semble que d'un coup, le propos se resserre dans le domaine national. Non pas que le domaine national est à mes yeux pas de pertinence propre, il en a une très forte. Mais aujourd'hui, enfin l'a-t-on jamais pu, mais en tout cas aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse penser la pertinence de la question nationale, la question pour l'intérêt national, en suspendant le rapport à la question mondiale. Je ne pense pas que c'est jamais été pertinent de le faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne l'est moins que jamais. Pourquoi ce silence, ou ce recul, ou ce retrait? Est-ce un certain retrait devant la question politique mondiale? Et si vous ne la posez pas, qui la posera? Vous êtes un de ceux qui pouvaient le mieux nous la poser. Enfin, le seul, bien sûr. De la question politique mondiale. La question mondiale comme question politique. Vous affirmez l'importance de la puissance publique dans certaines de vos analyses concernant la réforme du modèle industriel. Hein, vous en référez à la question de la puissance publique. Ne faut-il pas interroger les modalités de cette puissance publique en tant que puissance mondiale? N'y a-t-il de puissance publique, certains le pensent, qu'en tant que puissance nationale? Je ne dis pas que ça doit être réfuté simplement, je dis au moins que ça doit être discuté. Pour la cure à laquelle vous me conviez, vous savez combien je suis partant pour cette cure, et combien je me sens, patient volontaire, hein. Pour la cure à laquelle vous nous conviez, la pratique, le traitement, sera-t-il un traitement national, comme parfois vous l'évoquez, ou y a-t-il un traitement transnational à penser? Et lequel? C'était ma première question. La deuxième, qui s'y articule, est... Et peut-être, on revient peut-être sur la question de style. D'après, après tout, je suis peut-être le seul professeur de littérature ici, alors je me niche dans ce lieu. Qui concerne l'articulation entre votre discours analytique et vos propositions réformatrices. Vous proposez de réformer le capitalisme par une politique industrielle de l'esprit. Avec une audace, une hardiesse, un élan de pensée qui, stylistiquement, m'enchante. Politiquement, parfois, ça m'interroge, nous en discutons, mais je n'ai pas de réticence au fait que vous fassiez cette proposition. Mais je me demande, par moments, je le pensais en relisant tel de vos textes ces jours-ci, comment cela s'articule avec vos propositions analytiques. Non pas, je pense que ça doit être des espaces de discours absolument hermétiques l'un à l'autre, absolument pas. Mais par exemple, et ceci rejoint peut-être symétriquement, à l'envers, une question qui vous a déjà été adressée par Dominique Letour. Pour cette réforme, ou cette modification, cette transformation que vous appelez par moments très ardemment de vos voeux et à laquelle vous souhaitez contribuer à votre place, qui est l'opérateur de cette réforme? C'est-à-dire, qui en est, sinon le sujet, disons, l'agent? Qui est l'agent de cette pratique réformatrice? Le peuple. Et le peuple, lequel? Et comment, pourquoi, le peut-il, le pourrait-il? Vous parlez souvent du combat. Qui est le combattant? Bien sûr, nous sommes appelés chacun à l'être, et j'en suis. Du point de vue de l'articulation, de la pensée globale, quelle est l'instance qui est active dans ce combat? Ma troisième interrogation porte sur le statut de l'image. Cette interrogation sera vraiment trop simpliste, parce que, disons, en relisant votre volume « Aimer, s'aimer, nous aimer », Je me suis arrêté, plus que je l'avais fait la première fois, sur votre analyse du narcissisme. Et en particulier du narcissisme primordial, que vous dites primordial. Vous évoquez, si je vous ai compris, sous ce nom, le nécessaire amour propre ou amour de soi. Et d'ailleurs, à la page 17 de cet ouvrage, vous faites s'enchaîner ces deux formules, amour propre et amour de soi, disons dans une certaine équivalence. Or, vous savez bien que on ne peut pas ne pas penser à Rousseau, qui les distingue très soigneusement. Pour qui l'amour de soi relève peut-être de quelque chose comme le soin, le souci de soi, c'est-à-dire souci vivant, souci du vivant en tant que vivant, de l'humain en tant qu'humain, et l'amour propre a quelque chose de pathologique, hein. Mais pourquoi? Parce que c'est l'amour de son image, c'est l'amour d'une image, et c'est ce que dit le mot narcissisme. Par différence avec les autres images, par équivalence, par permutation paradigmatique avec les autres images possibles. Or, quand vous définissez le narcissisme primordial, salutaire, nécessaire, comme vous le faites page 14 de ce même volume, il me semble, mais peut-être ai-je mal lu, que vous ignorez que, enfin vous ignorez, pas que vous ne savez pas, mais qu'à ce moment vous ne tenez pas compte du fait que le narcissisme en tant que tel, tout narcissisme ne porte sur l'image. Donc, l'amour de soi comme image, l'amour de l'image de soi. Or, il me semble que vous en démarquez à la même page lorsque, par exemple, vous vous écartez de la définition lacanienne du stade du miroir. Vous dites non, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. S'il ne s'agit pas du miroir, est-ce que le mot de narcissisme est pertinent pour ce que vous dites là, ce que vous désignez là, cette sorte de d'affection de soi, d'affect à soi, quant à soi, de soin de soi. Est-ce que ce mot narcissique est pertinent? Et s'il l'est, quel est le statut de l'image qu'il convoque? Or, je me suis demandé si cette incertitude qui m'apparaissait ne communiquait pas avec une certaine, comment dire, avenir de l'analyse, enfin, analyse peut-être pas encore tout à fait produite, sur l'image comme telle, c'est paradoxal, vous parlez beaucoup des images, et vous ne cessez d'y penser, d'y travailler. C'est donc... vraiment, comment dire, presque inconvenant de ma part de vous adresser cette question, mais je vous l'adresse tout de même sur le caractère de l'image, sur ce que François Alvéra, traduisant Einstein, appelle l'imagicité, l'imagique de l'image, comme telle. Alors, là, c'est typiquement le cas où je me dis, il a dû y répondre ailleurs dans un livre que j'ai pas lu. Hein, parce que c'est tellement massif que ça m'étonnerait que ça vous ait complètement laissé indifférent, cette question. Enfin, je poursuis. Est-ce que cette question de l'image, dont je n'ai pas encore trouvé le statut exact dans vos analyses, ne renverrait pas peut-être, vous savez que notre affaire concerne le capitalisme, hein, la question qui est en discussion à cet égard, ne renverrait pas peut-être à, c'est trop vite dit, mais à un point déterminé de la compréhension du capitalisme, c'est-à-dire à l'instanciation spécifique du rapport marchandise-image, c'est-à-dire ce qu'il y a de proprement imagique dans toute marchandise. Le fétichisme, si vous voulez, mais c'est trop expédié, ça. Hein. L'analyse de l'image comme marchandise, la marchandisation des images, vous, évidemment, vous y consacrez une grande attention dans de nombreux textes que j'ai lus. Mais, en sens inverse, l'analyse de la marchandise, toute marchandise, comme image, c'est-à-dire de ce qui fait que toute marchandise est une question d'imagicité, est-ce que c'est une chose que vous avez traversée, peut-être pas. Je me vois obligé, certains le devinent, de passer par un nom qui fera hérisser certains cheveux, mais pourquoi pas. Bon, voilà, c'est le nom de Debord. C'est-à-dire, j'aurais envie de dire, où en est-on dans l'analyse du capitalisme et de la marchandise du rapport avec Debord, ce qui vous concerne, et je vais vous dire pourquoi. Ça. Parce que ce qui articule chez Debord le rapport marchandise-image, c'est un concept très précis qui est le concept de spectacle, très déterminé. C'est le point de connexion, d'articulation, du statut imagique de la marchandise avec le statut marchand de l'image. C'est ce qu'il appelle le spectacle. Veuillez pas le suivre dans cet usage terminologique. Et peut-être qu'on pourrait, je le dis au passage parce que c'est un peu. Peut-être qu'on pourrait là reprendre cette discussion avec le très beau texte que vous avez consacré au théâtre, un de ceux que vous avez consacré au théâtre, mais je parle de celui qui ouvre le volume Le théâtre, le peuple, la passion. Vous faites une proposition très singulière, là encore à la relecture, plus audacieuse que ça ne m'était apparu immédiatement sur le théâtre et sur la catharsis, dans votre lecture d'un texte de Nicole Loureau, mais qui, à mes yeux, crédite trop le théâtre comme tel, je dirais tout le théâtre, sans analyser le point exact de sa corruption par la marchandise d'image. Ce qui fait que le théâtre aussi est marchandisé ou imagée. Parce que le théâtre n'est pas une essence qui échapperait par lui-même, par nature, à toute marchandisation et donc à tout devenir de marchand, donc par le spectacle. Bon, j'aurais encore une question à vous adresser, mais je la mentionne sans la formuler. Ce serait la question sur la télévision. Sur le là de la télévision. Il m'a semblé que, alors, dans des textes qui datent d'il y a quelques années, ce qui peut se comprendre, je ne le cite pas, mais je pourrais le faire, peut-être que vous croyez, comme nous tous, et vous êtes très bien placé pour me dire si cette croyance est aujourd'hui pertinente, à une centralité de la télévision. Est-ce encore vrai ? Non pas des écrans, non pas des télévisions, non pas des images, mais de la télévision. Il m'a semblé que même dans tel texte assez récent, vous sembliez considérer que la télévision, alors, avec une fonction de régulateur central, est appelée peut-être à sa... dont la centralité serait peut-être appelée encore à s'approfondir. Et dans ce que je vois autour de moi, en particulier des adolescents, je me demande si c'est toujours tout à fait vrai. Non pas, bien sûr, les processus télévisuels, les industries de programmes, etc. Ça, bien sûr, je vous suis infiniment. Mais peut-on encore parler, pour ce qui se produit, et qui va se produire, quand vous êtes infiniment plus attentif que je ne suis, de la télévision. Peut-être, dans certaines circonstances, oui, la Coupe du Monde de football, dont vous avez de très belles pages pour analyser la fonction très singulière, et peut-être pas encore tout à fait comprise dans l'économie à la fois de notre monde et de notre temps. Mais, en dehors de ces circonstances, est-ce tout à fait vrai? Est-ce tout à fait permanent? Voilà. Puis j'en viens, pour conclure, à ce qui, de cette œuvre, de votre œuvre, m'importe ou me rapproche le plus. À ce qui fait sa pulsion intime, pour dire son désir, peut-être, dans votre distinction, son élan, son mouvement. Ce qui fait qu'on n'a jamais affaire à de simples analyses, mais toujours à un transport, à une motion. Moi, je sens, à vous lire, sans savoir toujours sur quoi cela porte, ou qu'est-ce qui me transporte dans ce transport. Mais je me sens emporté avec vous, pas seulement par la pertinence ou la véridicité d'une proposition, mais par le mouvement de quelque chose qui le tient et qui le transfère, qui le déplace. J'ai cru deviner assez vite que ce mouvement était sans cesse éthique, je dirais même, pour ma part, morale, la question de terminologie, ou politique, ce qui est à mes yeux étroitement lié par un rapport d'application qui n'est pas univoque, mais qui est tout de même très fort. Cette dimension éthique de tout ce que vous écrivez, éthico-politique, disons, je crois de tout ce qui vous anime, ce qui anime l'écriture que vous nous livrez lorsqu'on vous lit, est visible négativement, bien sûr, dans la forme de l'indignation, de la référence à l'inacceptable qui court dans toutes ces pages. Et ce n'est pas ce qui me touche le plus. De façon que je crois plus profonde encore, peut-être rejoint-on la question de la santé, de façon plus profonde encore, c'est porté par une impulsion positive. Par la valorisation de thèmes positifs, qui est beaucoup moins fréquent. Aujourd'hui, l'indignation négativiste est le lieu le plus commun. Hein. C'est le positif qui est le transgressif aujourd'hui. Donc, cette attention que vous portez à ces notions que sont le soin, l'esprit, l'éducation, pour en dire beaucoup d'autres, la sollicitude, le désir, etc., à laquelle s'articule la très belle méditation que vous nous livrez aujourd'hui sur l'attention. Je me suis demandé, petite question, est-ce que vous avez pensé à Simone Veil? Est-ce que vous savez que, je ne sais pas si vous ne savez pas, mais que Simone Veil est un penseur de l'attention. Et que c'est une philosophe qui a théorisé l'attention comme forme de l'intelligence. Et aussi comme forme de piété, ce qui... Elle considère que l'intelligence et la piété sont deux noms d'une seule et même chose, c'est-à-dire le regard. Mais bon, ça peut-être, c'est peut-être moins proche, mais au moins sur un point, c'est que c'est un penseur du travail, de la machine, et que la chaîne, telle qu'on la trouve dans le journal d'usine, est un processus d'asservissement du temps de la conscience au temps de la machine. C'est-à-dire ce que raconte Simone Veil dans le journal d'usine, c'est qu'elle ne peut plus émanciper le temps de la conscience du mode de temporalité propre qui lui est imposé par le devenir machine. Et ce à quoi elle oppose le concept de l'attention. Enfin, le fond ou le dernier mot de cette impulsion éthico-théorique, théorique, hein, vous savez comment Lévinas définit l'éthique, théorie de l'expérience morale. L'éthique est une théorie. Il m'a semblé la trouver dans votre livre pour les enfants. Des pieds et des mains, s'appelle-t-il. Que vous avez le goût d'intégrer dans votre bibliographie, bien sûr. Et nulle part aussi clairement que dans ces pages, je n'ai vu s'exhiber l'articulation entre le positif et l'éthique et vos analyses techniques, c'est-à-dire dans la question du concept. L'avez-vous livré aussi, de façon aussi élaborée ailleurs, je ne sais pas. Moi, c'est une question de capacité personnelle, je l'ai trouvé là. Hein. L'affaire de l'élévation. Qui est le concept par lequel vous reliez, le devenir de vous, de l'homme, hein, qui s'élève, la libération de la main, à l'outil, donc l'assomption de la technique, l'éducation, le fait qu'on élève des enfants, et au fond, la théorie de la hauteur, qui ne serait pas simplement ici, je ne sais pas si j'excède ce que vous donnez à penser, une métaphore, voire une poétisation, venue comme ça un peu par hasard, mais quelque chose comme un point d'articulation. Il y va d'une proposition quant à la hauteur, quant à l'élévation, qui n'est pas simplement ici un nœud métaphorique qui réunirait le moral et le moral et le pathologique, pour dire, enfin, disons le moral et la station debout, et la possibilité de la technique. Il s'agit de la possibilité de s'élever. Il s'agit d'en finir avec l'abaissement, pas seulement comme corpus de fait, mais surtout avec l'abaissement comme valeur, la valorisation de l'abaissement. Et de repenser quelque chose comme une légitimité, une dignité d'élévation, à quoi vous nous conviez. C'est à mes yeux ce qui fait singulièrement, discrètement, un peu, il faut aller chercher, pas trouver là, de votre œuvre une grande philosophie, c'est-à-dire une entreprise d'élévation des humains.
Merci. Sur l'explosion des concepts, des problèmes et des cultures. C'est un énorme problème pour moi, du permanent, à chaque fois. J'écris tout le temps maintenant, maladie chez moi, et je suis pris dans une espèce d'état d'urgence et de économie qui est toujours mauvaise. Une économie est intrinsèquement mauvaise. Plus ou moins, maintenant. Plus ou moins mauvaise, une économie de l'agitation. C'est l'objet souvent de discussions avec mon épouse. Pas avec mon éditeur, avec mon épouse. Là, tu charries. Bon, excusez-moi, c'est une question caractère familier de la référence. Et c'est compliqué. C'est vrai, c'est vraiment une question. Moi, je crois beaucoup à la reformulation. J'aime ça. Parce que j'ai une façon de penser en spirale que je revendique comme une méthode. Qui agace aussi énormément. Hein. Autant que le fait de ne pas le faire. Bon, mais là, effectivement, je pense que c'est une faiblesse de mon travail, avec laquelle j'essaie de me débrouiller comme ça, pragmatiquement, mais un peu sans solution. C'est aussi une discussion des éditeurs, comme vous pouvez l'imaginer. Parce qu'il y a un compromis aussi, il ne faut pas faire de livre maintenant de plus de 36. C'est très, très compliqué. Il est souvent plus rapide d'écrire le long livre que de dire raccourci. Voilà, tout ça est assez difficile, mais c'est vrai que c'est un problème dans le travail. Alors sur la question de la politique et de la question nationale, j'ai un projet sur ce sujet, qui j'espère d'ailleurs viendra assez vite, que j'ai un petit peu anticipé, mais dans constituer l'Europe. Là, je dénationalise les questions avec beaucoup de prudence, parce que pour être clair, je me pose des questions. Parfois, je ne sais pas. Parfois, je ne sais pas ce que je pense. exactement. Sur cette question, par exemple, du volontaire et du national. Ce que je peux vous dire, que je pense, parce que je pense des choses positivement sur ce sujet, pour une part, qui ont déjà été évoquées dans mes livres ou qui sont en réserve quelque part, je pense deux choses sur cette question. La première, c'est que je crois à l'Europe. Je crois à une Europe dont je pense qu'elle n'existe absolument pas, actuellement. Je dirais même qu'elle désexiste. Elle existe plus, pour moi, il y a 10 ou 20 ans qu'aujourd'hui. L'Europe, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe, désexiste, à mon avis. Mais je continue à croire. En tout cas, je continue à croire que s'il y a un avenir politique, il passe par une Europe en Europe, mais qui pour moi totalement encore devant nous. Et une Europe qui, c'est là que je viens, pas seulement vers l'Europe, la continentalisation mondiale dans la mondialisation, ne peut se produire, ne pourra se produire que dans un rapport, dans une géopolitique, une diplomatie, une négociation, d'une part avec l'Amérique, qui est un sujet qui reste entièrement ouvert. Je pense que la question Europe-États-Unis n'existe pas. D'abord, parce que les États-Unis ne le veulent pas. Et en tout cas, parce que les Européens en sont totalement incapables. Mais également parce que nous, quand nous ici, je parle des clercs, qui avons une énorme responsabilité dans tous les problèmes qui se produisent. On dit toujours le capitalisme. Et c'est d'abord nous qui avons une responsabilité. Nous sommes en carence, en grave carence. C'est pas une autoflagellation, une culpabilisation à laquelle je me livre ici. Simplement, pour moi, un élément analytique. Nous sommes, nous butons, si on discute. Sur ce plan, je crois que donc l'Europe doit nouer une relation nouvelle avec les Américains et avec, bien entendu, l'Asie et le reste du monde, mais l'Asie tout particulièrement, et bien entendu, et peut-être que là je suis en train de céder à des illusions mimétiques. Dominique Lecour m'a fait l'honneur tout à l'heure de dire que j'évite la mimétique, peut-être que parfois, là j'y tombe peut-être, mais je pense que la Chine est en effet pas simplement la Chine, mais la Chine en particulier, est un interlocuteur pour l'Europe qui doit, et entre ces polarités et d'autres, je ne veux pas parler parce qu'on n'a pas le temps, que je suis tout à fait pas suffisamment compétent pour en parler, mais il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la mondialité qui va se forcer et qui pour moi passe, alors c'est le deuxième point, parce que j'appelle curie et incurie. Les curieux et les incurieux, ce que j'appelle parfois d'ailleurs en féminin les gens foutistes. Je pense que le partage politique, ce que j'appelle la polarité politique est en train de se redistribuer aujourd'hui, non pas entre le capital d'un côté et le travail de l'autre. Ça ne veut pas dire que cette polarité disparaisse. Mais je pense que ça n'est plus elle qui va organiser les grandes polarités de demain, la grande polarité qui est en train de se constituer. À mon sens, c'est court terme, long terme. Je voulais d'ailleurs, dans mon discours de soutenance, parler de qu'est-ce qu'on fait avec la Zorgue de Heidegger du problème du long terme et du court terme. On n'en fait rien du tout. Pour ça, je ne suis pas Heidegger. Je pense qu'on ne peut pas. Ça veut pas dire qu'il ne faille pas tenir compte des questions heideggeriennes pour poser ce genre de questions. Et je crois que ça, c'est une question qui ne peut être que mondiale. C'est-à-dire que la question de la cure, de prendre soin, aujourd'hui, ne peut se poser que mondialement. C'est d'ailleurs toute une question de Foucault, dont on a beaucoup dit, beaucoup de Foucauldiens m'ont dit, mais Foucault, à la fin, avec le souci de soi, ça, dit, je me retire de tout ça, comme les stoïciens de l'Empire, de toute façon, il n'y a pas d'espoir, donc, je ne crois pas que, je pense que si c'est ça, Foucault, ça n'a aucun intérêt. Mais peut-être que lui a peut-être pensé des choses comme ça, je ne crois pas, mais peut-être, mais je m'en fiche. Ce qui est important dans ce qu'il fait, c'est que ça excède immédiatement. Sur la réforme du capitalisme et du qui, moi je ne sais pas. Mais en revanche, sur le rapport entre l'analytique et autre chose, j'appelle ça la volonté, je veux, tout comme vous parliez d'éthique, de morale et de politique, moi je veux réaffirmer la volonté. Non pas pour un volontarisme, je pense que le volontarisme n'est pas du tout une chose de crédible. Mais en revanche, la volonté, il n'y a pas de désir sans volonté. Il n'y a pas de volonté sans liberté. Et il n'y a pas de volonté sans liberté. Donc, liberté, volonté, ces vieilles questions dont on m'a enseigné pendant des décennies qu'elles étaient métaphysiques, elles sont effectivement métaphysiques, mais elles sont et transcendantales, mais elles sont, elles peuvent aller au-delà. Alors, qui néanmoins vient ce qui, pardonnez-moi, je dis la raison. Je dis la raison, et simplement j'essaye de poser, je le fais dans un séminaire tout récemment sur la philosophie, qu'il doit aujourd'hui, il faut reconstituer une raison de l'inconscient. La raison a toujours été pensée comme la raison de la conscience. J'ai Kant, j'ai Husserl, etc. Aujourd'hui se pose la question d'une raison de l'inconscient. Une raison qui arriverait à se développer sur une théorie de l'inconscient, mais qui ne tiendrait pas pour autant l'idée de la raison de la majorité, etc., etc. Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est... Ça, je ne sais pas aujourd'hui répondre à ces questions. Je me les pose. Je me les pose. J'ai aussi un projet là-dessus. L'océan du peuple. Je veux croire, pas simplement à travers Jules Ferry, mais à travers... comment s'appelle-t-elle? Un grand écrivain qui porte un nom d'homme du 19e siècle, une femme, George Sand, voilà, je crois à cet océan du peuple-là. Bon. Et, y compris parce que je suis un fils du peuple, comme on disait dans les années 40, tout ça. Mais derrière cette question du peuple, c'est l'individuation psychocollective qui m'intéresse, dans ses diverses occurrences, telle qu'elle doit faire unité. J'en reviens à la question de l'un de tout à l'heure. Et autrement dit, c'est la question de l'intérêt général. Parce qu'au bout du compte, à un moment donné, c'est une question. Et c'est là que des gens comme Ulrich Beck m'intéressent. D'un seul coup, ils posent ce type de questions, et je pense que ce sont de grandes questions. Sur le narcissisme, je vais aller vite, pardonnez-moi, parce que, évidemment, le temps passe. C'est une question évidemment fondamentale dans mon travail, où j'ai avancé en tremblant. Quand j'ai avancé cette idée, et je le dis devant Ben Slama, de narcissisme primordial, je me suis dit, où vais-je là? Parce que je ne suis pas un spécialiste du lacanisme, du freudisme, etc. Je n'ai pas passé des années, d'une part, à étudier tous les textes, et encore moins à faire des cliniques sur ça. Donc je n'ai pas une activité clinique en particulier. Quoi qu'il en soit, je tiens à ces, et si je risque de lancer cette plus de narcissisme primordial, c'est parce qu'évidemment, je tiens, y compris à ce nom de narcissisme, ce qui m'intéresse, c'est la projection de l'altérité. J'ai une théorie qui passe par un travail que je publierai dans quelques années, j'espère dans pas trop longtemps, sur Simon et Bergson, et qui passe beaucoup par Lacan aussi. Une théorie de l'altérité, qui d'ailleurs n'a rien d'original, qui est surtout chez Lacan, l'altérité. Je ne peux la rencontrer que si je la mets là où je la rencontre, si je la porte. L'altérité, c'est plutôt mon altérité, en fin de compte. Avec évidemment le fait que ne peut être mon altérité que si elle n'est déjà pas mon altérité. Autrement dit, si elle me clive déjà. Bon. C'est la question de la singularité. Je ne peux être affecté par une singularité que pour autant que cette singularité qui m'affecte intensifie ma singularité. Sinon, ça ne marche pas. Alors ça, c'est une structure en miroir. Le narcissique commence ce sens-là. C'est pourquoi je tiens à ce mot de narcissisme. Après, le narcissisme est absolument... Je veux dire, il n'y a rien de plus pharmacologique que le narcissisme. Donc bien, ça n'est ni une valeur positive, ni une valeur négative, c'est une condition. C'est d'ailleurs comme ça que je présente, c'est comme ça que le réservoir de libido... comment s'appelle le livre où les questions de narcissisme, enfin là où j'ai pris pour introduire le narcissisme, c'est ce que j'appelle une condition de la libido. Sans ça, il n'y a pas de simplement pas de réservoir libidinal, il n'y a pas de circulation libidinale, etc., etc. Ce qui nous conduit à la question de l'imagicité. Non, ça fait des années et des années que je travaille sur l'image, mais en effet, je n'ai jamais véritablement fait un travail sur ce que Almera appelle l'imagicité. Je ne l'ai jamais fait, tout en étant convaincu qu'il faut le faire. Donc je l'ai revendiqué, cette nécessité de le faire, par exemple dans l'univers symbolique, tome 2, dans l'organologie générale. Bon. Pour moi, l'imagicité, c'est une question d'organologie générale. Et c'est comme ça qu'il faut l'apprendre, mais je ne l'ai pas encore à proprement parler abordé, même si je l'ai aussi évoqué dans un livre qui s'appelle L'image discrète, dans un parallèle chapitre. Du livre que j'avais fait avec Jacques Derrida, dernier chapitre, qui s'appelle L'image discrète, où j'essayais de distinguer l'image mentale et l'image objet. mais une image-objet qui pouvait ne pas être, qui pouvait être ce stylo, par exemple, aussi. Ce n'était donc pas encore l'image du cité, même si c'est un pas vers ça. Donc, je n'ai pas encore, vraiment. C'est redoutable pour moi, cette question. Redoutable. Jean-Christophe Badi a fait des choses avec qui nous avions fait des choses ensemble, a écrit des choses importantes. Et je compte bien passer par son travail si jour nous met à cas, si je ne sais pas qui le veut. Et alors sur le théâtre et spectacle, je ne vais pas répondre maintenant, parce que ça, peut-être qu'on en parlera à Rennes la semaine prochaine, puisque nous serons dans un théâtre ensemble. Sur la télévision, rien n'est joué. Parce que ce que j'appelle la télévision, ce n'est pas forcément les grandes chaînes généralistes. C'est un certain type de fonctionnement et de captation de l'attention qui peut se faire sur les choses. Est-ce que, rien n'est joué, est-ce que les nouveaux médias vont véritablement créer des processus de rupture avec ça ou pas? C'est un combat. Nous devons mener, mais rien n'est joué. Donc, à mon avis. Bien entendu, en revanche, il y a énormément d'hétéronomie et j'y intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'évoquais très vite en passant Catherine Hales, qui travaille sur ces questions aux États-Unis. Je compte bien revenir sur son travail, dans mon propre travail bientôt. Il y a des questions extrêmement intéressantes sur lesquelles on travaille beaucoup, beaucoup plus aux États-Unis, en Suède, en Norvège, au Japon qu'en France, à ma connaissance en tout cas. Je termine très rapidement. Simone Weil, je n'ai pas lu le journal de l'usine. Ça fait très longtemps que je veux le faire. La femme Blanchot, qui en parle dans mon côté infini, mais je n'y ai jamais lu. Et alors là, je crois que je vais me précipiter effectivement en librairie, si on le trouve. Et quant à l'élévation, j'en ai parlé ailleurs. J'en ai parlé dans un article qui n'est pas dans mes livres, mais c'est un article sur Gilbert Simon, qui est paru, édité par quelqu'un qui est dans la salle, Jean-Yves Barthélémy, qui s'appelle, je ne sais plus exactement le titre, enfin c'est. Chute et élévation chez Gilbert Simondon. Je dois vous poser Simondon sur cette question aussi, parce que Simondon a développé ce concept formidable de point clé. De point clé, de sommet comme point clé. Alors, j'ai essayé en même temps de le critiquer, parce qu'avec Simondon, je suis toujours en fait ce rapport, et en essayant de montrer qu'à partir de cette question d'élévation, on peut penser la constitution de la cardinalité, de la calendarité. Donc, finalement, de ce que quelqu'un comme Guy écrirait, comme il appelle. Il y a une spatio-temporalité instrumentée. Voilà, mais je suis très heureux que vous soyez sensible à ça, parce que c'est en fait ce qui me motive pour plus haut aussi. Merci.
Bien, nous allons prendre une pause de... Merci.